Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, première de deux émissions aujourd'hui intitulée « Aux origines du monachisme ». Leur sujet est la naissance, dès les premiers siècles du christianisme, d'une expression majeure de la foi chrétienne qu'est le monachisme, devenu au cours de l'histoire un des piliers de l'Église. Pour en parler, nous recevons Yvan Koenig, chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la spiritualité chrétienne. Yvan Koenig, où et quand naît en fait le monachisme chrétien ?
Eh bien, on peut dire que le monachisme chrétien est né conjointement, parallèlement, aussi bien en Syrie qu'en Égypte. Et c'est ce qu'a mis en valeur en particulier Antoine Guillaumont pour la Syrie, qui a été marqué depuis le début par une très forte influence, on pourrait dire, de la gnose, de l'ascèse excessive parfois, et aussi du refus du corps. On voit ça au travers d'une série de textes, ou de les écrits de Tatien par exemple, ou les résumés qui sont faits de l'Évangile et qu'on appelle le Diatessaron, qui veut être une espèce de compilation qui fait des quatre Évangiles un seul. Et on voit que cette tendance à l'ascèse se concentre sur un problème qui semble être le problème central, c'est celui de la virginité. Et on distingue souvent dans un certain nombre de textes les chrétiens qui donc se marient, qui travaillent, etc., de ceux qui ne se marient pas et qui ont une vie de prière intense. Et là, c'est le deuxième aspect peut-être qui caractérise ce mouvement, c'est le fait que la vie chrétienne est conçue normalement comme l'acquisition de l'Esprit Saint, comme dirait Saint Séraphin de Sarov, l'acquisition qui se fait, mais là c'est une acquisition tout à fait particulière, parce qu'elle se fait de manière sensible, elle est ressentie par le fidèle, et on considère que celui qui a acquis l'Esprit Saint est en quelque sorte libéré de toute autre obligation. Et donc, il peut se consacrer totalement à la prière. Et ça va être en particulier le mouvement qu'on va appeler le messalianisme, qui se fonde, c'est après un mot syriaque qui veut dire la prière, et qui se fonde essentiellement sur donc cette espèce d'acquisition et cette division, on peut dire, à l'intérieur même des chrétiens, entre ceux qui travaillent et ceux qui prient. Après, on voit aussi d'autres œuvres qui vont essayer de réintégrer de différentes façons ce mouvement dans au sein de l'Église. Parce que on n'est pas sûr, on ne sait pas si il s'agit d'un mouvement structuré, organisé, etc., ou bien s'il s'agit d'une tendance, en quelque sorte, qui traverse plus généralement les différents courants, les différentes Églises. Si on est certain que la gnose a influencé, par exemple, Bardessane, qui est un des premiers écrivains syriaques, il était un disciple de Marcion. Marcion et le marcionisme qui ont été condamnés par l'Église. Marcion avait une vision qui fera d'ailleurs des émules, puisqu'il distinguait l'Ancien Testament du Nouveau Testament, l'Ancien Testament étant le fruit ou l'expression d'un Dieu mauvais, puisque créateur. Et le Nouveau Testament était l'expression du Dieu bon qui vient au secours de la créature qui est accablée dans la création. Donc on a ces influences, si vous voulez, gnostiques, on a ces influences ascétiques, on va dire incratiques, incratia pour employer le terme grec, mais c'est un incratisme, c'est une ascèse excessive et qui se concentre sur le phénomène du mariage. On distingue ceux qui sont mariés de ceux qui ne sont pas mariés, donc on va essayer d'intégrer plus ou moins ce mouvement dans le sein de l'Église. Et on voit par exemple dans le livre des degrés, qui est une œuvre de cette époque, on distingue effectivement les deux catégories de chrétiens, mais on les distingue à l'intérieur de l'Église. Donc, Voilà, et on aura plus tard aussi les fameuses homélies macariennes qui vont être attribuées à tort à saint Macaire, qui sont en fait des homélies qui sont dans un contexte Sirac, et qui sont marquées aussi par le messianisme parce qu'elles s'adressent en fait à ce mouvement. Et c'est la conclusion maintenant qu'ont tiré les spécialistes, c'est que ces homélies ne sont pas au sens propre messalianiste, mais elles s'adressent à ce mouvement et essayent en quelque sorte de les attirer vers l'Église. Il va de soi que l'Église a condamné ces différentes déviations, aussi bien gnostiques que messalianistes, mais en même temps, elle a essayé d'intégrer ces mouvements en son sein. Ça, c'est la première partie, pourrait-on dire, qui est celle de la Syrie, ce qui concerne la Syrie.
Quelle époque sommes-nous ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir au 4e siècle, n'est-ce pas, se formaliser quelque chose d'un peu nouveau. C'est-à-dire qu'on va voir au sein des communautés chrétiennes syriennes des gens qui vont se distingués par le fait qu'ils observent une ascèse plus rigoureuse. Ils vont s'appeler les fils ou les filles de l'Alliance. Les fils ou les filles. Donc il y avait des femmes dans ce mouvement, il y avait des femmes aussi dans le mouvement messianiste. Et donc c'est ce qu'on va leur reprocher d'ailleurs, d'être un peu comme des hippies, etc. Bon, mais et c'est de ce mouvement-là, si vous voulez, de ses fils et filles de l'Alliance, que va naître le monachisme après. Et on peut aussi mettre ceci en relation avec les persécutions que vont subir les Syriaques, en particulier les persécutions à l'époque de Shapur, qui est un roi mazdéen, iranien, qui va persécuter les chrétiens. Et donc les chrétiens vont avoir tendance à partir et à s'isoler dans les montagnes. Voilà, donc ça c'est le premier aspect, qui est l'aspect syrien, syriaque, alors qu'en Égypte...
Avant de passer à l'Égypte, excusez-moi. Donc, est-ce que nous avons des sociétés, des communautés qui sont vraiment séparées avec ceux qui sont dans le travail, qui sont dans la vie, je dirais, quotidienne, et ceux qui sont retirés pour prier, qui gardent la virginité, comme vous avez dit, qui renoncent en fait au corps et qui ont une vie plus spirituelle, je dirais, avec un langage actuel.
Écoutez, d'après ce que l'on voit, on n'a pas de société séparée. Ce sont des mouvements, ce sont des tendances, ce sont des groupes qui apparemment sont aussi, qui se déplacent aussi, au sein desquels, si vous voulez, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui prient. On n'a pas vraiment l'impression qu'on est deux groupe bien séparé, mais ça va venir plus tard, si vous voulez, avec cette formation au sein de groupes de fidèles très ascétiques, des fils et filles de l'Alliance qui vont avoir tendance à se séparer et qui vont, eux, être à l'origine du monachisme.
Nous avons terminé avec la Syrie, nous allons passer à la naissance du monachisme en Égypte, et nous savons très bien à quel point l'Égypte est importante dans l'histoire du monachisme. Mais avant, nous allons faire une pause. Et comme toujours, elle est en prière. Et le monachisme est toujours vivant, bien sûr. Et comme on a dit tout à l'heure, il fait partie des piliers de l'Église. Alors nous allons au Mont Athos, qui est depuis plusieurs siècles un des hauts lieux du monachisme orthodoxe, pour entendre un extrait de la liturgie du Grand Carême par les moines du monastère de Simonos Petra.
Σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσκει. semel.
O en dien a ti ora dimas, sacitus anatu iepsamenos, necrosotis arcos imonto fronima Christe.
Après cet extrait de la liturgie du Grand Carême par les moines du monastère de Simonos Petra, donc des moines atonites, nous revenons à notre entretien avec Yvan Koenig sur les origines du monachisme. En première partie, nous avons parlé de la naissance ou de ce qui est devenu la naissance du courant monachiste en Syrie. Alors, on va passer maintenant en Égypte. Peut-être une réflexion sur l'époque. Pourquoi le monachisme apparaît vraiment au IVe siècle? Le IVe siècle est un siècle très important, hein, parce que c'est le siècle de l'institutionnalisation de l'Église. D'abord la liberté, puis elle devient vraiment une institution. Alors, et en même temps, c'est au IVe siècle que les courants vraiment monastiques vont peu à peu se clarifier, si je puis dire. Pourquoi?
Eh bien, c'est ce qu'a mis en valeur un grand historien de l'Église, qui était Louis Bouillet. Il a bien expliqué que ce qui est nouveau au IVe siècle, ce n'est pas le monachisme, c'est le fait que l'Église s'institutionnalise, c'est-à-dire qu'elle devienne quasiment officielle. Et que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est-à-dire que vous allez avoir un afflux de gens qui vont venir dans l'Église pour faire carrière, pour avoir une place, avoir éventuellement des situations. Et donc, parce que l'Église va jouer, en fait, dans la société, le rôle d'intermédiaire que jouait auparavant dans le monde byzantin les institutions sénatoriales. Et donc on va voir à ce moment-là l'Église qui va tendre à jouer ce rôle et l'évêque qui va avoir un rôle de plus en plus important et de plus en plus central. Et donc l'évêque va avoir besoin de gens autour de lui pour faire fonctionner tout ça. Et donc, face à ce mouvement qui est un mouvement de laïcisation, peut-on dire, de l'Église, et le monachisme est un peu une réponse qui veut maintenir le caractère prophétique du petit reste d'Israël que l'on trouve dans l'Ancien Testament, de ce qu'annonce le Christ, etc. Donc, c'est une continuité avec l'Évangile. En fait, le monachisme ne s'est jamais voulu être autre chose que la mise en pratique de l'Évangile.
Nous passons maintenant à l'Égypte.
Et alors, dans cette Égypte, on va voir une personnalité qui va se détacher comme étant une fondatrice, c'est un Saint Antoine. Saint Antoine qui va être attiré, donc va avoir une vocation particulière, il est dans un village et il veut mener une vie ascétique. Et on voit qu'il va d'abord auprès d'un ascète qui est dans le village, ce qui veut dire qu'il y avait des ascètes avant lui. Bon, c'est intéressant. Et ensuite, il va s'éloigner un peu plus loin, il va habiter dans un fortin. Et puis après ça, comme il va être dérangé par les gens qui viennent le voir, il va s'enfoncer dans le désert et aller vers la mer Rouge où il va s'installer. Et c'est à ce moment-là que, après avoir toutes des années et des années de combats et de combats spirituels très durs, que Saint Antoine va devenir une personnalité rayonnante. C'est-à-dire qu'il va attirer auprès de lui des disciples et qu'il va attirer auprès de lui quantité de gens qui vont venir le consulter parce qu'ils ont des problèmes ou des ennuis. Donc on peut dire qu'il y a deux phases dans la vie de Saint Antoine et que Saint Antoine peut être considéré globalement comme étant le fondateur du monachisme.
Alors il faut dire que Saint Antoine est le modèle par excellence hein, du moine et que, bon, en gros, pour le situer, on dira qu'il a vécu du milieu du 3e au milieu du 4e siècle. Une vie longue donc, enfin, on ne sait pas exactement les détails, mais peu importe. Et aussi que nous avons sa vie écrite par une personnalité très forte aussi, un grand-père dogmaticien aussi, Athanase d'Alexandrie, hein, qui a écrit la vie d'Antoine. Et ce livre, enfin ce texte a connu une fortune absolument extraordinaire dans l'histoire de l'Église, et que la vie d'Antoine et certains passages même de sa vie a inspiré le monachisme à travers les âges. Et il y a un nombre absolument incalculable de textes sur Antoine qui sont en fait des variantes de ce que a donné Saint Athanase à cette époque-là.
C'est tout à fait exact. C'est-à-dire que la vie écrite par saint Athanase est considérée comme un manifeste, en fait. Un manifeste de la vie monastique dont chacun peut s'inspirer, tout moine peut s'inspirer pour sa propre existence. Et en même temps, parallèlement donc au monachisme érémitique de saint Antoine, on va voir se développer d'autres types de monachisme. Par exemple, plus au nord, entre Le Caire et Alexandrie, saint Macaire va fonder le site de Cété, où il va plusieurs monastères vont s'installer, et vous allez avoir à ce moment-là des petits ermitages qui vont se regrouper autour de lieux de culte.
Nous allons revenir dans notre deuxième émission, donc dans cette deuxième phase, je dirais, du monachisme qui par ermitage, puis par de vie collective. Et restons peut-être pour terminer cette émission sur Antoine et sur la vie d'Antoine, donc écrite par Athanase, et certains passages qui ont tellement inspiré la vie de l'Église, qui servent de leçons, qui servent dans la tradition, hein, qui est la transmission en fait du message. En prenant quelques exemples, enfin, il y a un des exemples qui est peut-être le plus fameux, je ne sais pas, mais qu'on trouve cité des fois absolument innombrable, c'est celui de la lutte d'Antoine avec les démons.
Il est visité par les démons. Et il décrit d'ailleurs ce combat. Il est transporté à un moment à un endroit, et il explique qu'il est transporté, et il est de nouveau seul à l'intérieur, porte fermée comme à l'accoutumée. Il n'était pas à même de se tenir debout par suite des coups reçus par les démons. Et il priait étendu sur le sol. Après la prière, il criait d'une voix forte, « Je suis là, c'est moi Antoine, je ne fuis pas vos coups, même si vous en rajoutez, rien ne me séparera de l'amour du Christ. » Il est extrêmement ferme, puis il psalmodiait, qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur n'en sera pas effrayé. C'est un psaume 26.3, c'est une utilisation des psaumes qui donne avec un contexte une lecture spirituelle du verset. L'armée à ce moment-là, c'est plus l'armée des ennemis, etc., c'est l'armée des démons. Mais l'ennemi qui est le bien s'étonna que même après avoir reçu de tels coups, il eut la hardiesse de venir, il convoqua ses chiens et leur dit « Vous voyez que ni par l'esprit de fornication, ni par les coups, nous n'avons pu faire cesser cet homme, mais il s'enhardit même contre nous. Attaquons-le donc autrement. Il est facile au diable de prendre des figures diverses pour causer du mal. Alors la nuit, les démons furent en tel vacarme que tout l'endroit semblait ébranlé. Les quatre murs de la petite maison furent comme rompus, et les démons semblèrent faire irruption. Tout cet endroit parut rempli en apparence de lions, de scorpions et de loups. Chacun d'eux se mouvait selon l'esprit qui était le sien. Même en ce moment-là, le Seigneur n'oublia pas la lutte d'Antoine, mais lui porta secours. Levant les yeux, il vit le toit qui semblait s'ouvrir et un rayon de lumière descendre vers lui. Les démons avaient subitement disparu. La douleur de son corps avait aussitôt cessé et la maison était de nouveau intacte. Antoine ressentit des secours et, respirant plus à l'aise et soulagé de ses peines, demandait à la vision qui lui était apparue « Où étais-tu ? Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté dès le début pour faire cesser mes douleurs ?» Alors une voix parvint jusqu'à lui « J'étais là, Antoine, mais j'attendais pour te voir combattre, puisque tu as tenu bon. » Et n'a pas subi de défaite, je serai toujours ton défenseur et je te rendrai célèbre en tout lieu. » Ayant entendu ces mots, Antoine se leva et priait. Il était tellement réconforté qu'il ressentait dans son corps beaucoup plus de force qu'auparavant. Il allait alors vers ses 35 ans.
Alors je crois que cela vaut le coup de prendre un tout petit peu de temps pour commenter ce passage. D'abord cette image de lutte, qui vient de l'Antiquité, la lutte est toujours présente. Puis, évidemment, l'arme d'Antoine, c'est la prière.
Hein. L'arme d'Antoine, c'est la prière. Le fait qu'il utilise des versets de psaumes, c'est très significatif de ce que vont faire les pères. Ils vont toujours utiliser des versets de psaumes dans leur combat spirituel, en donnant à chaque fois au verset un sens spirituel, comme le fait Antoine ici. C'est-à-dire que les ennemis ne sont plus des ennemis physiques ou des ennemis, mais ce sont des démons. Et ces démons sont effectivement, ça peut être des démons, ça peut être des pensées, les logismiques, comme diront plus tard les pères, ou les passions, les paphies. Donc tout ça, les pères vont lutter contre en utilisant l'écriture. L'écriture joue un rôle fondamental dans la lutte et dans la progression spirituelle de moine. Deuxièmement, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a des moments où apparemment Dieu n'est pas là. Dieu se retire et laisse la personne combattre de manière à voir à ce qu'elle s'éprouve elle-même, à ce qu'elle fasse elle-même l'effort et le progrès nécessaire. Et c'est ce qu'a fait Antoine. Mais Antoine était un combattant exceptionnel. Donc, et c'est pour ça qu'il dit après au Christ, mais où étais-tu? J'étais là, Antoine, et je te regardais te battre. Donc, il peut y avoir des phases, et c'est très important pour l'enseignement, si vous voulez, spirituel, par la suite. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des phases où la personne se sent abandonnée, ne sent plus la présence de Dieu, mais ce n'est qu'une apparence. Ce sont des moments où la personne, en quelque sorte, est éprouvée pour son bien, pour qu'elle puisse progresser. C'est-à-dire que les épreuves sont conçues dans la vie monastique comme des moyens de progresser.
Il y a peut-être aussi, en tout cas dans cette espèce d'absence de Dieu, un modèle qui vient de l'Ancien Testament, un modèle vétérotestamentaire. On a ça avec Job aussi, etc. On a cette idée qu'on appelle Dieu et il n'est pas là. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu n'est pas là. Jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à...
Oui, mais je crois que là, c'est plus l'idée que la personne doit, en quelque sorte, c'est une synergie, le combat spirituel, c'est-à-dire que c'est un combat qui est de l'homme avec la grâce de Dieu. Et il faut que l'homme fasse ses efforts, et la grâce de Dieu est là, mais pas toujours là. Il y a une image qui est très forte aussi employée par les Syriens, c'est celle de la mère et du petit enfant. C'est-à-dire que la mère qui accompagne le petit enfant tombe et la mère le relève. Or, l'esprit en syriaque est du féminin. Et donc la mère, ici, c'est l'image de l'Esprit Saint.
Écoutez, c'est avec cette belle image que nous allons terminer cette première émission. Alors, je signale La vie, évidemment, d'Antoine par Athanase d'Alexandrie aux éditions des Sources chrétiennes. Il y aura ça sur notre site. Et puis, Yvan Koenig, merci beaucoup de ce premier aspect, évidemment, du monachisme naissant et du rôle de la prière dans le monachisme. Dans 15 jours, la deuxième partie de cette émission. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Romain Lenoir. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.